Bonsoir, je vous remercie d'être venu ce soir. Alors, signalez-moi si ma voix ne porte pas. Je vais essayer de trouver une résonance pour faire en sorte que vous écoutiez, vous entendiez mes propos de la manière la plus claire possible. Faites-moi également une remarque si jamais je bafouille ou j'articule de manière fautive. Ça m'arrive fréquemment. À défaut donc de raconter ma vie, je me contente de la vivre. La langue mathématique dont je vais vous parler ce soir est une langue un peu spéciale parce que c'est une langue qui n'est pas structurée comme les autres langages qu'on peut parler, éventuellement pratiquer. C'est une langue, pour reprendre une citation de Galilée que je vais vous lire in extenso, alors citation très célèbre de Galilée qui, pour la première fois dans l'histoire des sciences, essaye de justifier la mathématisation qu'il met à l'œuvre dans la science physique. Alors, c'est une citation qui se trouve dans son livre « Il Saggiatore », qui est un livre publié donc par Galilée vers 1630 en réponse polémique à un certain jésuite qui avait décrit les trajectoires elliptiques pour les comètes. Donc, Galilée ridiculise les jésuites, bien sûr, comme d'habitude, et il explique un petit peu la façon dont la physique doit, ou la philosophie naturelle, doit s'exprimer de façon moderne. Voici ce que dit Galilée. La philosophie est écrite dans ce vaste livre qui constamment se tient ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers. Et on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or, il est écrit en langue mathématique et ses caractères sont les triangles, les cercles et autres figures géométriques sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot, sans lesquels on erre vraiment dans un labyrinthe obscur. Alors, bien entendu, cette langue mathématique, Galilée la suppose existante a priori et être la langue naturelle dans laquelle sont écrites donc les lois de l'univers. Lois scientifiques, lois physiques certainement, mais enfin on voit que l'homme intervient puisque... Sans cette langue formée de triangles dont les caractères sont les triangles, les cercles et autres figures, il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Cela veut dire également que cette langue correspond à une préfiguration, une préformation de l'esprit humain qui fait que nous sommes aptes tous à comprendre de manière universelle cette langue dont les caractères sont les triangles, les cercles et autres figures. Je vais essayer dans cette conférence, d'une part, de décrire à la fois les fonctionnalités, la raison d'être et les effets de cette langue mathématique, et en même temps d'en décrire des effets qui sont un petit peu secondaires et dérivés, apparemment, des effets de style, des effets de beauté également, puisque je vais essayer de décrire, ou au moins de suggérer ce qu'est le beau style mathématique. Et nous allons voir que ces effets, qui sont a priori des effets dérivés accidentels, complètement marginaux, se révèlent en réalité dans toute la structure mathématique, être pratiquement au cœur à la fois de la recherche et de l'élaboration des différentes théories mises en œuvre. Alors cette langue de Galilée, pourquoi d'abord les mathématiques ont-elles besoin de pratiquer une certaine langue? On pourrait estimer que les mathématiques soient écrites dans un langage naturel, un langage comme les autres, et d'ailleurs il y a des langages qui se révèlent, des langues existantes, qui se révèlent plus ou moins aptes à transcrire les idées mathématiques. Il y a eu des lingua franca, comme le latin au XVIIe siècle. Tous les grands traités mathématiques sont écrits en latin parce que tout le monde, tous les scientifiques de l'époque lisent le latin. Et c'est dû aussi à cette correspondance, la façon dont les idées mathématiques sont répandues. À partir du XVIIe siècle, donc, il y a des journaux qui sont édités, le journal des savants en France, les comptes rendus de l'Académie également, des sciences, donc à Paris, à Londres également, donc des comptes rendus de l'Académie, et par ailleurs, une énorme correspondance épistolaire entre les différents savants. Alors vous savez qu'à Paris, dans les années 1630, c'est Marin Mersenne, qui est à Minimes, et donc qui est basé au couvent de la Place Royale, la Place des Vosges actuelle, qui centralise toute la pensée scientifique de l'époque, pratiquement. Et donc c'est autour de lui que des savants qui sont parfois assez éloignés les uns des autres, comme Desargues, Pascal, le père et le fils, Fermat également, bien entendu, Robert Val, eh bien, peuvent communiquer sur leurs idées. Mersenne sert de boîte postale universelle. Huygens également correspond avec toutes ces personnes. Et à travers l'Europe, c'est un immense échange épistolaire qui a lieu entre les savants italiens, français, espagnol, belge, enfin néerlandais plutôt à l'époque. Et donc on a une espèce d'échange épistolaire qui se fait principalement en latin, parce que c'est une langue commune, pratique, assez souple. Et par ailleurs, disons qu'on est habitué à écrire le latin scientifique. Donc le latin a joué au XVIIe siècle un peu le même rôle que joue à l'heure actuelle l'anglais scientifique. Alors actuellement, c'est une autre langue qui a pris le pouvoir dans les sciences. C'est un anglais qui n'est pas vraiment une langue de communication. Enfin, c'est une langue plutôt de communication qui n'est pas une langue de culture. Hein. L'anglais scientifique, c'est plutôt un code qu'une langue d'ailleurs. Parce que ce qu'on a essayé de faire en créant un langage scientifique, c'est d'en noter, ou au moins d'épurer, toutes les ambiguïtés qui, à la fois, obstruent et font la richesse et la beauté du langage naturel. En effet, si l'on veut exprimer des idées scientifiques, et en mathématiques, il s'agit donc de démontrer des vérités, pour que cette démonstration soit reçue universellement, il est nécessaire que les termes soient reçus universellement également, que tout le monde soit d'accord à la fois sur les principes, les méthodes de déduction, donc ces règles doivent être à la fois énoncées et comprises par tous ceux qui les mettent en œuvre, que les procédures de validation des preuves également soient reconnues comme telles, et donc il faut, de manière ou d'une autre, eh bien, parler un langage universel. Alors ce langage universel doit-il être un langage naturel ? On peut imaginer en effet, et ça a été l'effort à la fois d'axiomatisation, de simplification, de fondement des mathématiques qui a eu lieu plutôt à la fin 19e, début 20e siècle, sous l'égide principalement de Hilbert et des grands fondateurs donc, qui ont été en théorie ensemble Cantor, mais également Russell, Frege, avec le calcul symbolique. Donc toutes ces personnalités ont essayé de fonder une façon de faire des mathématiques, une procédure, et de faire en sorte que les mathématiques reposent sur un terrain solide. Cet effort des fondateurs donc, aurait pu et aurait peut-être dû déboucher sur un formalisme pur. Et Frege proposait justement, à travers son axiomatisation, de procéder à un pur calcul symbolique, c'est-à-dire qu'on avait une suite de formules. Les mathématiques ne devaient plus, en quelque sorte, être lues, elles devaient s'écrire de façon extrêmement concise, simple, irréfutable, avec une suite de symboles. Et en logique, encore actuellement, quand on fait donc des vérifications de preuves automatiques, hein, les ordinateurs peuvent vérifier les théorèmes, peuvent élaborer même vérifier des preuves, peuvent énoncer des preuves, eh bien on procède de manière complètement mécanique avec un calcul qui est complètement symbolique. Donc pas forcément de langue sous-jacente, mais uniquement un système donc de principes et de règles de déduction. C'est là-dessus donc que les mathématiciens du XIXe siècle se sont efforcés de fonder de manière à la fois stable et pérenne toute la construction mathématique, tout le bâtiment des mathématiques. Alors cet effort, qui était un effort admirable, a réussi en partie et il a échoué dans une autre mesure. On s'est rendu compte, surtout avec donc les fameux théorèmes d'incomplétude de Gödel, que dès qu'on voulait faire des mathématiques à, disons, un niveau qui comprenait au moins l'arithmétique, c'est-à-dire ce qu'on peut faire de moindre en mathématiques lorsqu'on essaye de construire la théorie cohérente, eh bien, on était obligé, on rencontrait de manière inévitable des énoncés indécidables. Indécidables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les prouver, on ne peut pas non plus prouver le contraire. Donc c'est Gödel qui a montré qu'il n'y avait pas de possibilité de fonder de manière définitive les mathématiques sur un nombre fini d'axiomes et de principes. Dès qu'on essaye donc d'avoir cette complexité, on est obligé d'engendrer des espèces de monstres logiques. Donc ces monstres logiques interdisent une fondation définitive des mathématiques. Et de fait, eh bien, ils interdisent également la réduction des mathématiques à une pure procédure, un pur système symbolique qui se comprendrait lui-même et qui serait complètement à la fois effectuable et vérifiable par des machines. On est obligé d'avoir recours, si vous voulez, à de nouveaux énoncés, d'introduire la nouveauté dans les mathématiques. On ne peut pas se contenter des théories et des axiomes existants. On est obligé sans cesse d'enrichir les fondations. Donc les fondations sont sans cesse à recommencer. Et il faut voir vraiment l'ensemble des mathématiques comme une œuvre collective, un bâtiment, un palais, dont il faudrait à chaque fois reprendre les fondations, recommencer, replonger, parce que, eh bien, il n'y a pas de fondation définitive. Pascal s'était interrogé déjà au XVIIe siècle sur les fondations, les fondements possibles des mathématiques. Alors, c'est un texte que vous trouverez dans De l'esprit géométrique, hein, dans les pensées. Non, c'est l'esprit géométrique, pardon, ce n'est pas les pensées. Je vous lis donc la phrase de Pascal Il est évident que les premiers termes qu'on voudrait définir en supposeraient de précédents pour servir à l'explication. Et que de même, les premières propositions qu'on voudrait prouver en supposeraient d'autres qui les précédassent. Et ainsi, il est clair qu'on n'arriverait jamais aux premières. Aussi, en poussant la recherche de plus en plus, on arrive nécessairement à des mots primitifs qu'on ne peut plus définir et à des principes si clairs qu'on n'en trouve plus qui le soient davantage pour servir de preuve. Donc, Pascal propose une méthode de réduction, en quelque sorte, de remontée jusqu'à des principes primitifs, des axiomes, qui valent par leur pure évidence, mais qui ne sont pas démontrables ou énonçables autrement. Pascal suppose justement qu'on peut fonder les mathématiques et la science de manière générale sur ces axiomes, sur ces principes qui sont tels qu'on ne peut pas les simplifier, les réduire davantage. Donc des mots primitifs, des axiomes, des principes absolus fondamentaux dont malheureusement Gödel a montré que il ne suffisait pas à construire de manière définitive les mathématiques. Il y a une nécessité, si vous voulez, d'avoir à la fois une histoire des mathématiques et sans cesse de rajouter, de renouveler le bâtiment, de le rénover de manière incessante. On ne peut pas que se contenter de ce qui est acquis et construit. Il faut sans cesse revenir, creuser les fondements et renouveler ses fondations. Donc, cette langue mathématique est une langue qui ne peut pas se contenter d'être complètement et purement symbolique. On a besoin de recourir en mathématiques à une autre façon de procéder. Cette façon de procéder, elle découle également de la façon dont procèdent les mathématiciens. En mathématiques, on cherche à énoncer et à prouver des vérités. Donc il faut naturellement l'universalité, nous l'avons déjà mentionné, mais il faut également que tout le monde reçoive de la même façon les preuves qui sont énoncées. La mathésis, c'est la vérité, et cette vérité n'est pas une vérité révélée, c'est une vérité qui est démontrée, qui est prouvée. Alors comment se fait-il que cette vérité puisse être reçue universellement? Ça suppose l'universalité des processus de cognition, et donc une certaine logique commune à l'esprit humain qui soit les mêmes dans toutes les civilisations. Or, les mathématiques diffèrent selon les civilisations. On n'a pas du tout les mathématiques en Chine il y a 2000 ou 3000 ans que celles qui ont été développées en Occident à partir du XVIe siècle. Et de même, la mathématique grecque ne repose pas tout à fait sur le même phénomène culturel que ceux qui sont mis en œuvre ensuite en Occident au XVIe, XVIIe siècle. Il y a vraiment différents groupes, différents types de mathématiques qui sont élaborés, différentes façons de les formaliser également. Mais dans tous les cas, disons qu'on va s'efforcer d'arriver à l'universalité. Donc cette question des fondements, nous allons laisser de côté pour l'instant, et nous allons essayer de comprendre pourquoi les mathématiciens ont quand même recours à un langage naturel. Alors les mathématiques ne sont pas donc une simple liste de symboles. Ces symboles sont quand même faits pour justement être lus dans toutes les langues possibles. Là, nous avons un second problème très intéressant qui est celui de l'écriture et de la formulation donc, des mathématiques. Les mathématiques s'écrivent, comme vous le savez, avec des symboles, des formules, des notations qui ne sont pas des notations innocentes. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver à simplifier, pour arriver à expurger et pour arriver à rendre significatif les différentes notions employées. Donc c'est tout un effort qui est constant aussi en mathématiques de donner aussi aux notations qu'on emploie à la fois donc, la plus grande simplicité et la plus grande expressivité. Il s'agit de faire en sorte que ces notations soient transparentes à la chose qu'elles désignent. Et ce n'est pas du tout évident parce que justement on rencontre un problème qui est que ces notations ne sont pas naturelles. Ces notations ont besoin d'être définies, construites également de façon artificielle et elles échappent également aux notations communes et aux notations donc logiques. Donc les symboles mathématiques sont comme des espèces de hiéroglyphes ou d'idéogrammes. Et d'ailleurs, ce qui est très flagrant, si vous voyez un tableau de mathématiques avec des formules qui remplissent le tableau, des sigmas, des intégrales, des cosinus, enfin des fonctions, des dessins, des schémas, c'est qu'on a l'impression de voir une espèce de langage sacré avec des formules presque magiques qui flottent sur le tableau, qui se répandent les unes les autres. Alors cette fameuse langue dont les caractères sont les triangles, les cercles et l'autre figure ressemble à un langage hiéroglyphique. Pourquoi ces notations? Ces notations sont introduites dans un double souci. Prenons l'exemple qui est assez caractéristique de celui de la notation de l'intégrale. Alors vous connaissez peut-être, pour ceux qui ont fait quelques études de mathématiques, donc la notation qu'employait Leibniz et qui est encore actuellement utilisée, de l'intégrale comme un S un petit peu arrondi. Donc cette forme-là, intégrale entre A et B de f de t dt. Donc Leibniz emploie cette notation pour désigner le fait qu'on passe d'une sommation discrète, c'est-à-dire une sommation d'unités à coller, à une sommation continue. Et c'est Leibniz qui a l'idée assez géniale, justement, de transformer le sigma de la sommation discrète, c'est-à-dire le nombre fini d'unités, à une somme continue qu'il note avec un S arrondi. C'est pour signaler justement le passage d'une notation, enfin d'une sommation d'éléments accolés les uns aux autres à une transformation continue. Et là, le coup de génie de Leibniz, c'est d'avoir rendu cette notation à la fois compréhensible d'un point de vue intuitif et en même temps transparente d'un point de vue presque pictural. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est presque la façon, à travers le S de Leibniz, le S arrondi, c'est qu'on voit justement le passage justement du discret au continu. On comprend ce phénomène qui est qu'on passe donc d'une discontinuité d'état à une continuité d'état. Ce qu'on regarde, c'est la fonction elle-même, la façon dont elle varie, et on regarde en même temps cette espèce d'intégrale qui est donc une aire, hein, au sens de Leibniz, mais qui est également un passage continu d'un état à un autre. C'est la même chose pour cette notation que Leibniz emploie pour la première fois de la fonction f de t. Alors vous connaissez sans doute les notations des fonctions cosinus, sinus, avec une petite lettre accolée, la x ou le t, indéterminé. Eh bien, ces notations f de x, c'est Leibniz qui l'invente, et le terme de fonction également, de functio, c'est-à-dire d'exécution, d'application, qui signale qu'on ne va pas considérer simplement des valeurs prises par la fonction, non pas cosinus pi, cosinus 0, cosinus pi sur 3, mais la fonction elle-même comme une transformation de la variable, comme une application qui a une valeur de l'angle, va donner la valeur du cosinus. Et c'est Leibniz qui donne cette abstraction supplémentaire et cette notation f de t pour désigner la fonction. Donc vous voyez que ces notations ne sont pas du tout innocentes en mathématiques. Il y a tout un effort de création graphique à la fois et de simplification qui fait que eh bien, la formule va devenir efficace, la notation devient efficace. D'ailleurs, certaines notations sont plus ou moins abandonnées dès qu'elles apparaissent parce que justement elles ne sont pas efficaces, elles ne sont pas opératoires et elles ne sont pas transparentes quant à l'objet qu'elles désignent. Et c'est la grande efficacité et le grand effort des mathématiciens de créer donc des formules qui soient à la fois effectives et qui puissent eh bien, représenter de la manière plus fidèle l'objet qu'elle désigne. Ces notations mathématiques donc pourraient très bien, on pourrait très bien en mathématiques, se contenter d'aligner des formules et des symboles. Mais on a besoin, et c'est là que la langue fait son retour, le langage naturel fait son retour, on a besoin non seulement d'avoir une espèce de loi écrite, de suite de symboles, mais également d'une explication. On retrouve une situation qui est comparable à celle qu'on a face au texte sacré, justement, parce qu'on a une vérité démontrée, mais cette vérité elle-même n'est pas forcément une vérité compréhensible. Pour comprendre un texte mathématique, il faut non seulement l'énoncé même du théorème, mais il faut des remarques, des commentaires, une exégèse qui éclaire à la fois le sens du théorème, qui en donne les différents domaines d'application et qui précise un petit peu l'objet qu'on a en tête lorsqu'on énonce et on démontre ce théorème. Donc la mathématique n'a pas besoin seulement de s'écrire ou de s'énoncer, de se démontrer purement, elle a aussi besoin d'être expliquée et commentée. C'est la même situation qu'on a vis-à-vis des textes sacrés comme la Torah, où il faut à côté du texte lui-même, eh bien, Mishnah et Gemara, c'est-à-dire des commentaires, une espèce de tradition qui vient surimposer, et qui éclaire, qui explique, qui interprète ce qu'on a sous les yeux. Il est nécessaire donc de rentrer dans les détails, d'expliquer, de commenter les énoncés qu'on a donc formulés. Ça suppose naturellement que ces énoncés, que ces commentaires, qui sont une espèce de langue dérivée, eh bien, donnent le sens, la clé des théorèmes, des propositions, des formules. Et pour cela, bien sûr, eh bien, on est obligé de recourir au langage naturel. On ne peut pas se contenter donc de formuler les choses de manière définitive, parce que sinon, bien entendu, on peut aligner les théorèmes, les propositions, les lemmes, les corollaires, mais cet alignement ne donnera pas le sens de ce qu'on a sous les yeux. Le sens reste caché, en quelque sorte, et il faut vraiment le faire sortir du texte en ayant recours au langage naturel, aux commentaires, aux remarques, aux scolies, qui éclairent, expliquent et permettent d'élucider un petit peu le sens donc, des formulations mathématiques. Et pour cela, naturellement, on a recours à nouveau au langage naturel. Donc il y a un retour nécessaire de la langue naturelle dans la langue mathématique, à travers ce système de commentaires, d'explications, d'élucidations, qui représente un petit peu la revanche de la tradition orale sur la tradition écrite. Parce que les mathématiques ne sont pas non plus une pure juxtaposition d'énoncés. La façon dont communiquent les mathématiciens n'est pas simplement à travers un échange justement d'énoncés purs qui seraient transmis l'un à l'autre et validés par la communauté. Il faut également expliquer, il ne faut pas se contenter de communiquer de façon écrite. Il est très important en mathématiques également de communiquer oralement, d'expliquer, donc d'avoir une tradition orale qui vient se surimposer à la tradition écrite. On ne peut pas, en mathématiques, comprendre complètement une théorie si on n'a pas une rencontre, une élucidation, une explication, un dialogue avec celui qui l'a élaboré. C'est pour ça que les mathématiciens se rencontrent souvent entre des colloques qui sont irremplaçables pour justement éclairer les différents points. Et si au cours de ces colloques, on ne se contente pas justement de faire des communications, mais qu'on échange autour des théorèmes, des énoncés, des propositions, des théories, et qu'on peut justement donner le sens ou la représentation ou ce qu'on a en tête lorsque on développe tel point, l'intérêt, l'objectif qu'on poursuit, ça on ne peut le préciser qu'au cours des colloques. Donc c'est très important qu'il y ait, vous voyez, à côté du texte lui-même, eh bien, tout un ensemble de commentaires, de descriptions, de développements, d'exégèses, qui ne peuvent avoir lieu que dans la marge du texte, en quelque sorte, ou bien de façon orale, cette tradition orale qui vient se surimposer à la tradition écrite et qui est nécessaire donc, dans l'exposition et la pratique des mathématiques. Ça suppose également, bien sûr, que le texte lui-même qu'on a sous les yeux, qu'on va commenter, soit un texte non seulement universellement compréhensible, mais également simplifié à l'essentiel, de façon à ce que l'énoncé lui-même apparaisse dans toute sa vérité et sa lumière. Donc c'est tout un effort qui est fait par les mathématiciens, un effort de stylisation, de sorte qu'on ait un énoncé qui soit à la fois élégant, dans la mesure où on aura une transparence de l'énoncé par rapport à ce qu'il représente, mais également une belle simplicité. Les mathématiciens sont des gens qui s'efforcent de reformuler sans cesse les théories, les résultats, les théorèmes, de façon, d'une part, à étendre le cadre dans lequel ils sont applicables, mais également de façon à ce que, eh bien, on ait une espèce de saisie devant l'évidence, la beauté, la simplicité de la chose. On considère, en effet, qu'il y a différentes démonstrations possibles, vous voyez, des théorèmes mathématiques. Certains résultats ont été démontrés de manière assez lourde et pesante au XVIIe siècle, et c'est seulement au XIXe et XXe siècle qu'on a réussi à le reformuler, à le replacer dans une théorie beaucoup plus large et générale, et à faire en sorte qu'on ait une explication beaucoup plus claire de leur fonctionnement. Donc on a des preuves qui peuvent être complètement techniques, un petit peu lourdes et abstruses, et à côté de cela, tout d'un coup, on se rend compte que le théorème prend une autre signification, un autre sens, un autre éclairage, si on l'encadre dans une théorie plus vaste, ou si au contraire, on le met en parallèle avec d'autres résultats, et qu'on arrive en quelque sorte à le déplacer, à le métaphoriser d'un domaine dans l'autre. Ces allers et retours entre différents domaines des mathématiques sont pratiquement ce qu'il y a de plus courant et de plus fécond dans la pensée mathématique. En effet, les mathématiques ne sont pas une série de champs clos et parallèles, la géométrie d'un côté, l'algèbre, la topologie ou l'analyse, qui se contenteraient de vivre de manière indépendante dans des mondes à la fois parallèles et séparés, mais au contraire, il est nécessaire en mathématiques de faire communiquer ces différents mondes. Il y a une unité de la pensée mathématique qui n'est pas simplement une unité de forme, mais vraiment une unité de fond. Je prends l'exemple de la géométrie algébrique. La géométrie algébrique, c'est une espèce de traduction ou de transfert, et on peut y voir un processus de métaphore, pratiquement, de tout ce qui est, disons, du domaine de la théorie des nombres, donc des nombres qu'on manipule de l'arithmétique, des nombres premiers, par exemple, des structures algébriques, donc qui est purement numérique, à des structures qui sont géométriques, à des formes dans l'espace, des courbes, des intersections. Et donc, une idée fondamentale, c'est de transférer ce qui est géométrique dans ce qui est algébrique. C'est de faire une espèce de va-et-vient, d'aller-retour, entre des constructions géométriques, des phénomènes ou de nature géométrique d'un côté, et de l'autre côté, des résultats de théorie des nombres. Donc, il s'agit vraiment de transférer l'un vers l'autre incessamment, et de faire en sorte qu'on puisse établir un va-et-vient, une métaphore entre ces différents domaines. Les mathématiciens donc, procèdent tout à fait à la façon des poètes, qui, de ce point de vue, ont recours à des métaphores également. Ils donnent un autre sens au mot de l'attribut. Et vraiment, les mathématiciens, très souvent, sont amenés à interpréter un résultat qui est apparemment un résultat de pur calcul différentiel, tout d'un coup, dans des termes de théorie des nombres. Il va y avoir ces transferts incessants, ces allers-retours entre différents domaines de la théorie, cette espèce d'effort à la fois de traduction et de déplacement qui est constant en mathématiques. Le champ des mathématiques n'est pas un champ stable. Disons que chaque domaine communique avec les autres. Il y a une unité profonde dans la pensée mathématique. Mais cette unité profonde donne naissance vraiment à des espèces de communications souterraines et parfois incompréhensibles. Disons qu'on aperçoit parfois la raison profonde pour laquelle tel résultat peut être transféré dans tel domaine, pour laquelle on peut généraliser tel résultat à tel autre domaine, mais quelquefois la raison profonde reste masquée. Et donc c'est un autre point de vue qu'il faut adopter. Alors, ce qui nécessite également une description différente du phénomène, Et un résultat mathématique, point de vue, n'est jamais figé, puisqu'il n'y a jamais de façon naturelle de le dire. De façon, on essaie sans cesse de simplifier et de rendre transparente, là encore, la façon dont tel résultat entre en action. Alors là, on retrouve un petit peu le paradoxe, ou plutôt l'espèce de hiatus que relève Pascal, aussi entre l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Donc dans les pensées, vous trouvez cette très belle pensée. Donc je rappelle la distinction que fait Pascal entre l'esprit géométrique et un esprit de pure déduction, logique pratiquement, celui que par exemple peut effectuer un ordinateur lorsqu'il prouve le théorème des quatre couleurs. Le théorème des quatre couleurs, c'est un théorème très simple à énoncer. C'est un théorème qui énonce que lorsque vous avez une carte de certains pays, une carte plane de certains pays, on peut colorer cette carte avec uniquement quatre couleurs en faisant en sorte que deux pays contigus aient des couleurs différentes. Donc de façon à ce qu'on puisse distinguer justement les pays. Il suffit de quatre couleurs pour colorier complètement n'importe quelle carte géographique. Alors ce théorème qui a été entrevu au XIXe siècle, on a cherché pendant longtemps à le démontrer de manière formelle et compréhensible. Eh bien, il se trouve que la seule preuve qu'on ait, c'est une preuve qui procède par disjonction des cas. Donc, on a dû, d'une part, simplifier un petit peu l'étude avec un peu de théorie des graphes, et on a dû également, donc, étudier différents cas possibles, et ensuite soumettre à un ordinateur la vérification de ces différents cas. Donc, cette preuve du théorème des quatre couleurs, eh bien, personne ne l'a jamais complètement lue, et personne ne l'a jamais écrite. Elle a été vérifiée par ordinateur. Alors, on fait confiance, bien sûr, aux ordinateurs, à la capacité de calcul, mais on leur fait confiance entièrement pour cette preuve que personne n'a jamais comprise et conçue en son ensemble. On s'est contenté, si vous voulez, de disjoindre différents cas et ensuite de faire calculer les ordinateurs. Donc c'est un exemple de théorème dont personne n'a vraiment jamais lu la preuve complète. Ça prendrait des années pour éplucher, lire, ça ne prendrait aucun intérêt, puisque bien entendu, les ordinateurs font ça mieux que nous. Donc de ce point de vue, on peut faire confiance à leur esprit de géométrie. L'esprit de finesse, au contraire, c'est un esprit tel celui du chevalier de Méret qui, lui, cherche au contraire à voir en profondeur. Alors, Pascal signale justement que ce qui fait que certains esprits fins ne sont pas géomètres, c'est qu'ils ne peuvent pas du tout se tourner vers les principes de géométrie. Mais ce qui fait que les géomètres ne sont pas fins, c'est qu'ils ne voient pas ce qui est devant eux. Ce qui fait que les géomètres ne sont pas fins, c'est qu'ils ne voient pas ce qui est devant eux. Or, c'est tout un problème, en mathématiques, justement, de voir ce qu'on a sous les yeux et de comprendre la nature de ce qu'on a sous les yeux. Parce que bien souvent, la nature de l'objet mathématique est beaucoup plus profonde que la façon dont on est décrit. On donne une description d'un objet, par exemple d'une fonction, d'une certaine courbe algébrique. Donc on essaie de le décrire d'une certaine façon, mais naturellement, le point de vue qu'on a est très particulier. Et la représentation qu'on en a est également très particulière. C'est-à-dire qu'on peut définir l'objet mathématique, mais pour le comprendre en profondeur, il faut le voir et le voir de la bonne manière. Le voir comme si on l'avait sous les yeux et le voir à la fois de côté, de profil, pour découvrir ce qu'il y a derrière en quelque sorte. Et ce qui est frappant, c'est que, naturellement, on comprend plus ou moins certaines théories, certains énoncés, en fonction des représentations qu'on se fait des objets dont on parle. Alors c'est très important, ce lien des mathématiques aux représentations. Il est nécessaire, en effet, d'avoir des images très précises, des images presque palpables, des objets mathématiques, et je parle des objets et pas des concepts, parce que les objets de la théorie mathématique sont vraiment, pour le mathématicien, des objets palpables. Ce sont des outils qu'on manipule, ce sont justement non pas seulement des triangles, des cercles abstraits, mais presque, si vous voulez, des choses qu'on a entre les mains, qu'on manipule, qu'on examine, toutes les coutures, sous différents angles, pour essayer de comprendre davantage la nature. Donc il est très important de se représenter ces objets. Le problème, c'est que la même énoncé, la même définition, ne représente pas la même chose pour tout le monde. Ce qui rend la communication difficile, ce qui rend la langue mathématique justement difficile à énoncer et à élaborer, c'est que personne ne parle de la même chose. Quand on parle, en effet, d'un objet simple comme un tore, eh bien, différentes manières sont représentées en tore, c'est-à-dire c'est une espèce de pneu, si vous voulez. Mais ce tore est un objet également qui intervient énormément donc, en géométrie différentielle, donc il y a des singularités qu'on peut tracer sur cet objet, on peut s'intéresser également aux courbes tracées sur le tore, enfin, il y a différentes façons d'examiner le tore, de le concevoir comme espace quotient également, et cette représentation différente du même objet fait qu'il est très difficile justement de savoir de quoi on parle quand on évoque un objet mathématique. On a différentes idées, différentes images qui viennent en tête, qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. D'où une difficulté de communication, parce qu'on peut essayer d'expliquer un théorème, un résultat à certains collègues. Le problème, c'est que si on ne parle pas de la même chose, si on parle de la même représentation, il sera très difficile pour le collègue, bien qu'il comprenne et il admette la preuve qu'on lui met sous les yeux, de comprendre la nature profonde de ce qu'on est en train de lui expliquer. Ça suppose donc qu'on ait des représentations qui soient non pas universelles, mais personnelles. Et ce qui est très important, c'est que chaque mathématicien va en quelque sorte s'approprier les objets qu'il manipule. Il les manipule proprement, vraiment comme des outils de mécanique. Hein. Les mathématiciens sont avant tout presque des mécaniciens. Il faut voir vraiment les objets mathématiques comme non pas des concepts, non pas des abstractions, mais des choses qu'on manipule, des mots justement. Et les caractères dont parle Galilée, ces caractères sont les caractères qu'on peut manipuler, qu'on peut mettre en scène, qu'on peut modifier, échanger, perturber. L'idée des fondateurs de Galilée, c'est que c'est un assemblage de ces caractères qui donne sens aux mathématiques. Donc le problème principal, c'est justement de se représenter de manière très concrète les objets qu'on manipule qui sont a priori abstraits. Donc il faut incarner, et chaque mathématicien doit presque revivre en son sein toute l'histoire des mathématiques. Alors de façon naturellement un peu accélérée, parce que le mathématicien, à mesure qu'il apprend les théories, a des façons plus ou moins simplifiées. Hein, on comprend beaucoup mieux maintenant des théorèmes qui paraissaient presque incompréhensibles et difficiles à énoncer au temps de Pascal, Galilée et Descartes. Hein, on a maintenant, par exemple, pour le théorème de Fermat, dont l'énoncé est très simple. Alors Fermat, naturellement, avait énoncé correctement son théorème, l'impossibilité donc de résoudre l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n, sauf dans un cas trivial avec n supérieur ou égal à 3 x, y, z entier. Mais la preuve elle-même relève d'une complexité beaucoup plus forte que tout ce que connaissait Fermat. Donc le problème, justement, c'est qu'il y a, vous voyez, sous les objets qu'on manipule, eh bien, comme des espèces de constructions souterraines qui descendent très profondément et qu'on découvre petit à petit à mesure qu'on explore en profondeur une théorie. Donc une théorie mathématique, ce n'est pas simplement les objets qu'on voit, c'est aussi les objets qu'on imagine. Et voir ce qu'on a sous les yeux et comprendre la circonférence qu'on a sous les yeux, c'est ce qui est plus difficile en mathématiques. C'est comprendre exactement quel est l'objet auquel on a affaire. Savoir quelle est la nature de cet objet et savoir comment le manipuler, sous quel angle l'apercevoir et comment le représenter de façon adéquate. D'où la recherche justement d'une façon de présenter une théorie qui soit la plus naturelle possible et la plus adéquate possible aux objectifs qu'on recherche. Alors cet effort de simplification a conduit justement à des œuvres collectives. Là, je voudrais un petit peu préciser ce qu'il en est du rapport de la collectivité à l'individu en mathématiques. Les mathématiques sont une construction, une œuvre collective. Il n'est pas pensable de faire la mathématique tout seul. Hein. On doit communiquer, d'une part parce qu'on doit assimiler des théories qui ont déjà été élaborées par d'autres, on doit les comprendre, et là on doit justement les incorporer et les représenter pour soi-même, avoir une représentation personnelle adéquate des objets qu'on manipule. Mais également, il est important donc de s'insérer dans ce bâtiment, cette construction collective, et d'y apporter sa pierre individuelle. Sous le paradoxe de la recherche mathématique et de la façon dont sont faites les mathématiques, c'est que c'est à la fois une construction collective, mais qui ne prend son sens que par des opérations individuelles. Il y a des aventures individuelles, des aventuriers de l'esprit, comme l'ont été donc les grands mathématiciens au cours des siècles, qui chacun ont un peu modifié la façon dont on construisait, dont on imagine le bâtiment. Les mathématiques actuelles n'ont absolument rien à voir avec ce que Hilbert avait en tête lorsqu'il a posé ce fameux problème donc au début du XXe siècle, et lorsqu'il a essayé d'orienter la façon dont les mathématiques allaient, les différents problèmes qu'il a énoncés, et qui devaient orienter la recherche en mathématiques à partir du XXe siècle. Donc les directions qui ont été prises, certains de ces problèmes ont été résolus, d'autres restent encore ouverts, mais disons que ce qui est fondamental, c'est que les directions qui ont été prises sont très différentes de celles qu'imaginait Hilbert. Les mathématiques actuelles sont un monde en plein foisonnement. Il est impensable à l'heure actuelle de comprendre l'intégralité des mathématiques. Personne ne maîtrise complètement, justement, l'intégralité de l'édifice. Chacun construit un petit peu dans son coin, en faisant attention à ce que font les autres, bien entendu. Mais disons qu'il y a des bâtisseurs qui sont plus puissants que les autres, qui réorientent, des architectes qui interviennent pour reprendre le bâtiment, le modifier, et en quelque sorte à la fois en embellir l'architecture et donner un sens qui n'existait pas avant eux au bâtiment qu'ils sont en train de construire. Donc il est important de comprendre qu'il y a cet amendement, cette correction permanente des mathématiques, cette construction collective comme une cathédrale, par des aventures